Bonjour, où va l'argent des pauvres? Comment est-il dépensé? Et surtout, quel regard portons-nous collectivement sur ces modes de consommation de la partie la plus précaire de la population? Comment les pauvres dépensent-ils de l'argent et comment les regardons-nous dépenser cet argent? C'est les questions que pose notre invité du jour. Bonjour, Denis Colombi.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur en lycée, auteur du blog Une heure de peine et aussi auteur de ce livre, cet ouvrage Où va l'argent des pauvres, donc qui vient de paraître aux éditions Payot et pour lequel nous vous recevons. Donc merci d'être là.
Merci à vous.
Je peux peut-être vous demander pour commencer comment vous avez eu l'envie de travailler pour ce livre, qu'est-ce que vous y racontez et surtout quelle est votre démarche?
Alors, l'avis de travailler sur cette question, elle est venue de l'actualité. Et toi, justement, au blog, en fait, j'essaye de commenter l'actualité à l'aide des travaux de la sociologie. Et il y avait eu plusieurs polémiques autour de l'argent des pauvres, qui a commencé autour de la réduction de 7 euros des APL au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, de la presse, de les discours politiques sur, voilà, c'est seulement 7 euros que leur enlève, pourquoi est-ce que c'est si grave alors que c'est pas grand-chose. Après, il y a eu comme ça des polémiques un peu récurrentes. À ce moment-là, moi, je travaillais déjà sur la sociologie économique, et j'avais lu quelques travaux qui apportaient cette question de la pauvreté, de l'utilisation de l'argent. Et il me semblait que la sociologie pouvait permettre d'éclairer ce problème-là de Toprade. Pourquoi 7 euros, en fait, pour les pauvres, ben, c'est beaucoup, même si, vu d'ailleurs, tu as le spectre des revenus, c'est pas grand-chose. Mais en fait, quand on se met à ce niveau-là, oui, ça peut vraiment chercher le regard. Et donc, j'ai commencé à lire de plus à plus là-dessus. Ça débouchait évidemment sur l'ouvrage, mais mon idée, c'était tout ça, de faire entrer la sociologie à cet épa-là, de montrer ce que les sociologues ont à dire sur cette question. Il y a beaucoup de travaux qui ont été produits dessus, beaucoup d'ethnographies, beaucoup d'études parfois très fines, très belles, et qui ne passent pas forcément dans le débat public. Donc, je voulais les amener là. Avec cette idée à laquelle je suis très attaché, c'est que pour répondre à ce type de question, pour répondre à ce type de débat politique, finalement, autour de la pauvreté, autour des aides sociales, autour de plein de choses de ce genre-là, ben, il faut commencer par comprendre ce qui se passe, il faut commencer à connaître. Et en fait, on parle beaucoup des pauvres sans les connaître. Ils sont une classe objet, qui c'est pour Dieu, aussi pour les classes populaires en général. On parle beaucoup, mais tu
Qui ont
connais
peu la parole.
finalement, voilà, tu as un peu la parole et tu connais assez mal. Et parmi les personnes, parmi les professions qui font l'effort d'aller sur le terrain, qui font l'effort justement de rencontrer les personnes, de les étudier en détail, ben, il y a les sociologues, il y en a la sociologie, il y en a d'autres évidemment, il y a des associations, il y a les journalistes, mais la sociologie fait beaucoup ce travail et ça me semble important de pouvoir diffuser ce genre de travaux dans le débat public. Ça permet surtout de sortir en fait, de beaucoup de discours très convenus sur les pauvres, sur la pauvreté, sur l'argent des pauvres, et même sur l'argent en général, qui sont essentiellement des discours politiques de personnes qui, tout en appelant sans cesse à être réalistes, à parler sans tabou, etc., en fait ne connaissent pas la réalité, ne vont pas la voir, ils ne tiennent pas compte des données.
C'est ce
Moi,
que
je voulais
vous
ramener aux données.
en fait résumez dans le sous-titre du livre qui est Fantasme politique, réalité sociologique.
Voilà, je voulais te confronter. En fait, il y a beaucoup de fantasmes politiques sur l'argent des pauvres. Il y en a déjà beaucoup sur l'argent. Il y en a beaucoup sur les pauvres. Évidemment, la copinaison têteuse, ça fait qu'on a beaucoup de discours qui sont très certains d'eux-mêmes, qui en fait sont des discours très moralisateurs sur la pauvreté, sur l'argent, mais peu des discours de connaissance. Donc, moi, je propose de revenir d'abord à essayer de comprendre, de connaître ce qui se passe. Et après, tout ce qui est la politique, ce qu'il faudra faire à partir de ça, je laisse au lecteur le choix et la responsabilité de se situer avec ça, mais au moins, je parte sur des connaissances qui sont un peu précises.
Parce que ce qu'on peut expliquer, c'est que dans le livre, vous citez plein de travaux dont vous donnez toutes les références, des sociologues qui sont allés sur le terrain, qui ont suivi des groupes de population, qui ont suivi des personnes, ou des recherches sur les modes de comportement, ou les modes de perception des comportements.
Oui,
Donc,
mais
voilà.
aussi tes travaux sur l'argent, sur la sociologie de l'argent. Voilà. Il y a un vaste champ de la sociologie économique qui s'est beaucoup développé depuis 30-40 ans. La sociologie de la pauvreté aussi, un champ important. C'est une littérature qui est très, très vaste, très, très foisonnante. Donc, j'ai essayé de synthétiser ça, mais de pas de la synthétiser façon synthèse académique, comme une revue de la littérature, mais d'abord comme étant un essai qui essaye, à partir de ces travaux-là, à partir de cette littérature-là, de traiter et de soulever un certain nombre de problèmes, un certain nombre de connaissances, et qui essaye surtout de déconstruire tes préjugés, tes représentations communes, tes fantasmes politiques.
Alors, vous parlez de préjugés et de cas sur lesquels on peut tous porter un regard. Alors, justement, j'ai pris une petite vidéo de l'actualité des années passées. Donc, on était en janvier 2018 et on a eu affaire à ce qu'on a appelé les émeutes du Nutella. Bon, on peut évidemment redégonfler tout ça, mais des quelques cas de bousculade assez fortes dans des Intermarchés au début de l'année 2018 parce qu'il y avait des fortes promotions sur des gros pots de Nutella. On peut juste voir comment les médias ont raconté ça en quelques secondes.
Depuis hier, dans les magasins Intermarché, le pot de 950 grammes de Nutella est vendu 1,41 euros au lieu de 4,50 euros. Une réduction de 70% qui n'a pas échappé aux consommateurs. Résultat, les fans de pâte à tartiner se sont rués dans les magasins jusqu'à entraîner de véritables émeutes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans certaines villes, la police a même dû intervenir. Je pense que c'est pire que le premier jour des soldes, là.
Donc voilà, on peut à la fois voir les images et puis percevoir le commentaire et les sous-entendus et le sous-texte assez ironique des journalistes qui présentent ces images. Quel commentaire, vous, ça vous inspire?
On voit qu'il y a immédiatement un jugement moral, en fait, qui se met en place sur le thème, mais pourquoi ça? Pourquoi ces émeutes? Déjà, le terme émeute est très marqué. On n'a pas affaire à des images à tes émeutes. On a affaire à tes postulates. La société n'a pas te rappeler sur ses bosses à cette occasion-là. Mais tel usage, en fait, de ce terme, qui s'est posé, en fait, assez rapidement, on a déjà un jugement moral, comme s'il y avait quelque chose de complètement absurde à ce que tes chats se postulent, essayent d'acheter du Nutella, ce poussin, ce postulat, ça, voilà. Ce qui finalement est très commun sur les soldes, c'est votre chaîne rapidement à la vidéo, où tu as plein d'autres contextes où on va chercher à acheter tes produits rares. On peut passer au chat à la sortie d'un nouvel iPhone, ou pour tes curseurs, ou tes choses comme ça. Et on a fait très rapidement ce jugement-là, de se dire, mais c'est pas normal, il devrait pas faire ça pour ça, parce qu'on ne fait pas l'effort, ou parce qu'on ne veut pas, ou parce qu'on ne peut pas faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi le Nutella est aussi important. Nutella ou d'autres produits, d'ailleurs, sont aussi importants pour les personnes qui les achètent. Parce qu'on s'imagine assez mal ce que c'est que de vivre avec très, 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 très peu d'argent.
Et donc, dans ce cas précis, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, pourquoi une promotion de 70% sur du Nutella, ça peut fonctionner, ça peut attirer fortement une population qui a peu de moyens?
En fait, il faut comprendre à quoi sert le Nutella, à quoi servent ces produits-là. T'as tes familles pauvres, en fait, la consommation de Nutella ou la consommation d'une façon générale de produits de fast-food, de gras sucrés, etc., sont fortement liées au SAFA. On l'achète et on va, par exemple, au McDo, d'abord pour faire plaisir au SAFA. Et en fait, on a des ménages qui sont confrontés à des achats assez compliqués. L'une d'elles est de faire plaisir aux SAFA. Il faut leur faire plaisir. Et en même temps, quand on est pauvre, ben on est obligé souvent de leur dire non, non, tu n'auras pas ça, non, je pourrais pas t'acheter ton jeu vidéo, non, tu pourras pas aller à tel A3, non, on pourra pas prendre tes vacances. Il faut leur dire non en permanence. Le Nutella, c'est l'occasion de leur dire oui, une fois, pour finalement pas cher. C'est en fait très rationnel économiquement de chercher à acheter du Nutella pour faire plaisir à ses SAFA. Ça leur permet de se conformer à un modèle qui est dominant. Le bon parent, c'est celui qui fait plaisir à ses SAFA, pour finalement quelque chose qui n'est pas très cher et qui est tout à fait accessible. C'est un luxe accessible au plus grand nombre et c'est un luxe qui est nécessaire aussi parce qu'on est soucieux de défaire en fait le stigmate de la pauvreté pour les SAFA. C'est très dur pour les SAFA de se savoir pauvre, de voir aussi, tu as le regard des autres à l'école, par exemple, qu'on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens d'avoir le cartable que je voudrais, etc., etc. Finalement, avoir au moins une tartine de Nutella, c'est déjà pas mal et ça nous fait peut-être s'attirer ou ça donne au moins aux parents l'impression d'offrir quelque chose à leur SAFA, de les protéger du match. Et parfois, ça peut aller de pair justement avec des sacrifices importants de la part des parents qui, pour les cadeaux de Noël, par exemple, vont ce mois-là, à tes sabres, eux-mêmes se priver de certaines choses, moins de choses au mets, ne pas payer les factures immédiatement parce qu'ils sauront que le mois prochain, ils pourront le payer avec la relâche, ça sera un peu la ceinture, pour qu'à Noël, il faut à tout prix que les parents aient été cadeaux. Et je pense que tu en fais l'effort de réfléchir comme ça et d'aller voir surtout ce que tissent les sagettes, ce que tissent les travaux de sciences sociales dessus, on peut comprendre qu'en fait, c'est rationnel Et que si on était pauvre et pas fait, on achèterait aussi cette unité-là, tout simplement.
Oui, c'est quelque chose que vous soulignez à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Quand on regarde ces situations-là sans être pauvre, alors d'abord, un, on n'a pas conscience des contraintes ou des multiples injonctions contradictoires ou paradoxales que subissent ces personnes-là. Et puis deux, on a tendance à penser que nos solutions, notre façon de gérer l'argent, ma façon de gérer mon petit budget de cadre qui a un salaire confortable, ces solutions-là pourraient me permettre d'être bien plus cohérent économiquement et de gérer bien mieux mon budget si j'étais dans la situation de ces personnes pauvres. Quoi.
Voilà, on a l'idée que c'est une forme d'ethnocentrisme de classe. Les façons que chez moi, classe moyenne, classe supérieure, de gérer mon argent, elles sont universelles. Si tout le monde faisait comme moi, tout le monde serait riche. C'est d'ailleurs ce que je propose à un certain nombre de coachs, appliquer les 4 recettes des plus riches de ce monde et vous deviendrez riche vous aussi. Ça ne marche pas, généralement. En fait, on a cette idée-là que si tout le monde consommait comme nous, si tout le monde achetait comme nous, ben, tout le monde pourrait s'en sortir. L'exemple typique, c'est l'épargne. On a cette idée que le comportement d'épargne est le bon comportement. C'est même le tétra principe des comportements économiques les plus valorisés depuis le début du capitalisme. Il faut épargner, il faut réinvestir.
Il faut accumuler l'argent.
Il faut accumuler l'argent, donc il faut épargner plus sous une forme particulière, une forme monétaire. Et du tout, lorsqu'on a ça à tête, bah, déjà, on perd de vue que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas épargner et que ce n'est pas faute de contrôle de soi ou de capacité de contrôle, mais c'est que souvent, ce comportement n'a pas de sens. Pour des personnes qui ont des très faibles budgets, ils vont peut-être faire d'énormes efforts de se priver, de ne pas s'acheter de nouveaux vêtements, de ne pas s'acheter de la nourriture, pour mettre de l'argent de côté. Au bout d'un an, deux, cinq, trois, cinq, bah, en fait, ils seront toujours presque rien. Ils seront mis de toi, peut-être payer un mois de loyer supplémentaire, ou s'il y a un problème de santé, un problème d'inter ou autre, des choses comme ça qui ne sont pas forcément très, très, très bien rapportées, et bien tout disparaîtra d'un coup. S'il y a un problème avec la justice, ou s'ils perdent leur emploi, bien, tout disparaîtra. Donc dans ces cas-là, épargner, en fait, pour un avenir qui ne viendra peut-être pas, et pour tes sommes qui, de toute façon, nous laisseront au final aussi pauvres, ça peut ne pas avoir de sens. Et d'autre part, il y a aussi des comportements d'épargne qu'on ne va pas voir, parce qu'en fait, on imagine l'épargne comme étant mettre de l'argent sur un compte à patch, un compte épargne, ou même acheter des actions, des obligations, ou d'autres types de propriétés. Mais lorsque des personnes pauvres, par exemple, remplissent leur congélateur, ça peut être une forme d'épargne.
Ouais, stocker pour, de la nourriture ou d'autres produits, voilà. C'est une forme d'épargne.
Voilà, c'est ce qu'analyse la sociologue Anna Perra-Heretia de façon, je passe priate. Le congélateur, le cachipi, le balcon, parfois, est une forme d'épargne populaire qu'on ne veut pas voir. Et tous tes comportements qui nous semblent, vu de l'extérieur, absurdes ou incompréhensibles, sont en fait les seuls à avoir pour gérer la pauvreté. On se demande par exemple pourquoi les personnes avec les revenus les plus faibles, les plus pauvres, lorsqu'ils reçoivent leur salaire ou leur aide sociale, et bien ils dépassent tout à coup. Immédiatement, ils vont au magasin, au supermarché, ils s'achètent plein de choses. Et on se dit, ben en fait, c'est qu'ils ne savent pas se retenir. Ouais. Mais en fait, s'ils ne faisaient pas ça, s'ils laissaient de l'argent sur le compte à badge, et bien ils auraient toutes les chances de disparaître entre mains. Ça peut être, on a un PV avec la voiture, hop. Il disparaît. Ça peut être une facture qu'on n'avait pas prévue, il disparaît. Et tu as un certain nombre de cas, tu as les ménages pauvres, ça s'est analysé par de nombreuses ethnographies. La personne qui gère les finances, c'est l'épouse, c'est la femme. Et ça a fait une charge mentale supplémentaire à elle.
C'est
elle
un travail à plein temps.
C'est un travail à plein temps, et c'est vraiment quelque chose qui peut leur peser beaucoup dessus. Et parfois, ça peut être simplement, bah, si je ne dépasse pas tout de suite pour les courses, le mari qui, lui, ne se sent pas tenu de contrôler autant son comportement, bah, il va payer la tournée au bistrot avec les copains, cet argent va disparaître. Donc finalement, c'est plus rationnel, c'est plus efficace économiquement de le dépasser immédiatement, de stocker. Au moins, on sait qu'on aura de la nourriture, et même si bah, y a une facture qui arrive, on pourra peut-être pas la payer, effectivement.
Mais au moins, on aura la base.
Mais on aura de la nourriture. On saura qu'on peut nourrir ses affaires, on peut nourrir sa famille pendant un certain nombre
de temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à nouveau plusieurs fois dans votre livre, dans les travaux que vous citez, etc. Je trouve que c'est important de le dire comme ça. Vous dites, ces gens-là ne sont pas pauvres parce qu'ils consomment comme ça, parce qu'on a l'impression qu'ils dépensent tout, qu'ils gèrent irrationnellement, mais au contraire, ils se comportent comme cela parce qu'ils sont pauvres, parce que la pauvreté pousse à des comportements qui peuvent paraître irrationnels quand on n'est pas face à ces mêmes contraintes.
Voilà, on a fait beaucoup de représentations sur ce qui est la pauvreté, sur ce qui la provoque. Et en fait, souvent, lorsqu'on regarde la pauvreté, on se dit, mais en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est, alors les chats se comportent mal, ils savent pas se retenir, ils sont psychologiquement, mentalement, voire maintenant biologiquement, de plus en plus, Laura, Alexa, très d'autres qui se chartent genre, sont déficients, ils sont au problème, ils sont une tare, et la pauvreté, c'est la conséquence. Et en fait, lorsqu'on regarde comment ils consomment et qu'elles disent leur situation et qu'on fait un peu l'effort de reconstituer la simple et contrainte qui passe pour eux, et bien en fait, la pauvreté, ça pense. Ils consomment comme ils consomment parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté, c'est la pauvreté. Elle n'a pas besoin d'une explication supplémentaire.
La pauvreté, c'est la pauvreté. Voilà. On est pauvre parce qu'on n'a pas d'argent.
On n'a pas besoin, d'aller chercher une autre explication. C'est un phénomène qui se reproduit dans le temps, qui se reproduit entre les générations. C'est un phénomène qui est stable à lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des déficiences chez les personnes. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont par nature vertueux et que si on leur filait, si on leur donnait beaucoup d'argent, d'un seul coup, ils seraient tous millionnaires. Ouais. Même si on leur donnait des millions, par contre, ils seraient effectivement millionnaires. Mais simplement, en fait, ils savent pas mieux gérer ou moins bien gérer que les autres. Ils sont pas moins capables de se contrôler ou mieux que les autres.
Ils sont pas plus vertueux ou moins vertueux.
Voilà, ils sont comme tout le monde. Simplement, ils sont pauvres. C'est ça la différence. C'est la situation économique. Il faut tenir compte de cette situation économique à tel ou tel. Quelque part, ne pas regarder les pauvres, mais regarder la pauvreté.
Ok. Alors là, on va regarder les pauvres. Justement, je voulais vous montrer un autre extrait vidéo alors, qui a été repéré par le site Arrêt sur Image. On est sur TF1 dans l'émission 7 à 8 le 2 février 2020. Et on suit une famille aux revenus modestes, deux parents, deux enfants, qui vont aller à Disneyland pour quelques jours, pour deux jours. Et écoutez dans cet extrait. L'argent est omniprésent dans les discours.
Combinaison thermique, aussi pour moi.
À 5h du matin, Elodie et ses fils Timéo, 9 ans, et Nolan, 5 ans, s'apprêtent à partir pour le parc.
Elle est déjà dans la valise, là, il neige. C'est 5 mois qu'on a réservé, là. Il est temps. Mais il est temps d'y aller.
Vous avez bien dormi ?
Ah non, j'ai pas dormi de la nuit, mais ça fait une semaine que je dors plus, hein, donc...
Ils se sont offerts deux jours sur place et une nuit dans l'hôtel le plus luxueux, où la chambre coûte habituellement 1 000 euros pour 4 personnes.
Depuis le temps qu'elle voulait cet hôtel-là.
Elle vous en parle depuis longtemps ?
Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, ça fait 14 ans qu'elle m'en parle. Et c'est son rêve depuis jeune fille, donc on a essayé de le concrétiser, quoi.
Grâce à son comité d'entreprise, Nicolas, agent de maintenance, a bénéficié d'une offre inespérée, 400 euros entrée comprise. Pour mettre cette somme de côté, Nicolas et Elodie, tous deux payés au SMIC, ne sont pas partis en vacances depuis un an et demi. Elodie a même fait des extras en tant que serveuse l'été dernier.
Je te cherche, j'ai besoin de toi.
Mets toutes les lumières, regarde.
Après 2 heures de route, Elodie retrouve son frère, sa sœur et sa filleule.
C'est de toute beauté.
Ah, crevette, là, t'es contente ?
C'est beau, hein, Nana ?
T'as vu, ma chérie ?
Alors, quoi, c'est... là-dedans ?
Attention,
t'es combien d'années ?
On attend. J'en y va, on rentre ?
Ouais, allez !
Allez, Nana, attention. Attention !
Doucement, doucement ! C'est de toute
beauté ! C'est beau, hein ? On va dire que c'est raffiné, en fait.
Quand
même, c'est du grand standing. Hein. J'ai pas vu la salle de bain. Même une rose dans la salle de bain.
Quoi ?
Là, on a le rose, on a les moins de petits détails, ça, on a les 7 nains. Ça fait du bien d'avoir les sourires des enfants aussi. L'argent mis de côté aussi, hein, l'argent mis de côté pendant tous ces mois. C'est la récompense. Ils sont contents, c'est principal, moi aussi. Enfin, c'est vrai qu'avec 400 euros ou au plus, on pourrait quasiment avoir une semaine autre part. Mais... on n'aurait pas ce confort-là et pas ces images-là, quoi. Non, on regrette pas. Moi, je regrette pas, en tout cas. Hein ?
Non. Je préfère passer un jour qui est dans un hôtel formidable que rester une semaine dans un hôtel pourri.
Donc là, on entend, en fait, l'extrait se finit par l'enfant qui dit qu'il préfère dépenser de l'argent dans quelque chose de bien plutôt que d'aller dans un hôtel pourri. Cet extrait, mais en fait... toute la partie du reportage qui est consacrée à la famille, d'une vingtaine de minutes, tourne autour de l'argent. Mmh. Comment on a économisé, comment on le dépense, est-ce que c'est bien de le dépenser comme ça? Qu'est-ce que vous voyez dans cet extrait?
Bah déjà, la première chose, c'est que ce n'était pas une émission sur l'argent.
Non, pas du tout.
C'était une émission sur les gens qui vont à Disneyland.
Absolument.
Donc là, on a une famille, dont la mère est manifestement passionnée de Disney. On a vu qu'il y a des peluches partout à son logement, qui réalise son rêve. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher, Tastiella, d'être un peu obsédé par l'argent. On devrait être là pour parler d'autre chose, a priori, vu le cadrage de l'émission. Mais non, comment est-ce que cette famille fait pour l'argent? Et quelque part, eux-mêmes, ça s'impose à eux. Ils se sentent obligés de justifier. Voilà, on préfère avoir une chapre, une belle chapre, plutôt qu'une chapre pourrie. Et quand même, tout ça est vraiment très, très bien. On n'a pas caché son argent. Ils se sentent obligés de se justifier. On a la représentation, en fait, souvent, que les pauvres devraient consommer peu, pas du tout.
Différemment.
Ou différemment. Et devraient se contenter de pas grand-chose. Et que s'ils partent à vacances, ils devraient aller dans un hôtel pas cher, pas trop loin de chez eux, etc. Et en fait, globalement, c'est pas qu'ils devraient, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Ils n'ont pas le choix. Mais que lorsqu'ils s'en ont la possibilité, souvent, un peu le chopra, je pense, ils préfèrent se sacrifier, faire des efforts, et ça leur a demandé visiblement de trop efforts et une capacité de gestion de l'argent et de son budget relativement importante pour finalement se faire plaisir une fois et une fois dans sa vie réaliser ce qui semble être un rêve. Donc, le jugement moral qu'on a spontanément dessus peut en fait masquer ce qui se passe vraiment et notamment ces efforts de gestion, ces efforts de planification que réalisent les pauvres à cette occasion.
Effectivement, quand l'émission a été diffusée, immédiatement, vous avez des commentaires de gens anonymes qui ne connaissent pas la situation et qui expliquent « D'accord, tu es au SMIC et tu peux te faire plaisir une journée à Disney, mais de là à péter toute ta thune pour bouffer du Mickey, tu économises pour améliorer la vie de tes gosses, pas pour les gaver de sous-culture. » Ou d'autres commentaires qui disent que c'est simple, cette mère de famille, elle a un iPhone 11, elle a qu'à le vendre, elle aura beaucoup d'argent, ou bien elle met beaucoup de temps à économiser les 400 euros nécessaires, mais alors comment ça se fait qu'elle s'est acheté son téléphone? Bon, je trouve que c'est des commentaires qui sont... Voilà, on a pris cela un peu au hasard, mais ils sont typiques.
Oui.
On pense tous parfois à des choses comme ça. Je pense que votre livre commence comme ça, sur des élèves qui n'ont pas de sous pour une sortie scolaire, mais qui ont des jolies baskets.
Quelque chose que chez moi-même.
Voilà, en
fait. Tu es un réflexe, ça fait que chez
c'est un réflexe classique que tout le monde a, à plus ou moins fort degré, qu'il exprime plus ou moins. Mais je trouve ça intéressant. Comment vous voyez ce regard qui est un regard purement moral, en fait?
Oui, c'est un regard, en fait, qui juge à la fois les pauvres et l'argent, avec cette idée que finalement, ça ne sert à rien de donner de l'argent aux pauvres, puisqu'ils vont s'en servir, paraître ça, pour acheter tes téléphones ou pour acheter du Disney. Et là-dessus, on passe pas, on réagit pas forcément de la même façon lorsqu'on a des personnes riches qui utilisent leur argent pour des choses parfois beaucoup plus absurdes qu'on pourrait considérer. Un peu trop, beaucoup plus absurde que les pauvres. On va dénoncer l'iPhone ou les vacances à Disney d'une famille pauvre, mais ou le pot de Nutella, tu en parlais tout à l'heure, mais lorsqu'il s'agit de personnes beaucoup plus fortunées qui vont acheter des yachts, qui vont se payer des vacances à la neige avec les conséquences écologiques que ça peut avoir, etc. Là, l'étistour va souvent être plutôt « Ah oui, mais écoutez, ils ont gagné l'argent, ils ont le droit de leur consommer. »
C'est leur argent, ils peuvent se le permettre.
Et quelque part, oui, ils peuvent se le permettre, ils ont le droit de le faire. Après, on peut dire, par exemple, ils ne devraient pas le faire parce que c'est écologiquement pas bien. Mais le problème, c'est pas l'argent, c'est autre chose. Et finalement, les pauvres, c'est pareil. Ils ont gagné leur argent. Le couple dont on parle ici, qui va à Disney, il a gagné son argent, il a fait des efforts pour. Pourquoi est-ce qu'on devrait, au prétexte qu'ils s'en ont peu, leur dire, vous ne pouvez pas y avoir, ou vous ne pouvez pas avoir d'iPhone. L'iPhone est devenu le téléphone, le smartphone en général, est devenu un peu le nouveau bien de trop.
Oui, avant, c'était l'écran plat de télé.
Il y a eu l'écran plat, il y a eu les baskets. Je pense que si on remonte plus loin, on en trouvera un peu. Ouais. Je n'ai pas fait l'historique, mais je pense qu'on peut en trouver un peu.
Alors vous dites qu'avoir un téléphone portable aujourd'hui, quand on a une famille, c'est presque indispensable, un téléphone qui a accès à Internet, parce qu'on n'a pas forcément d'ordinateur, il faut quelque chose qui fonctionne bien, il y a plein de...
Et puis il faut faire tes démarches administratives, par exemple, il faut faire tes démarches administratives, parfois pour toucher le RSA, parfois pour d'autres choses, pour l'école des enfants, et en fait on a besoin d'une connexion Internet, et lorsqu'on n'a pas d'ordinateur et qu'on n'a pas de connexion chez soi, le smartphone, c'est un moyen très économique bah, de se connecter sur les Wi-Fi publics, d'avoir un minimum d'informations. Ça permet de rester en contact avec d'autres personnes. Ça permet d'avoir accès à toutes sortes d'autres services. On vit dans un environnement en fait, qui est fait pour tes utilisateurs de smartphones. Pourquoi devrait-on s'étonner que les plus pauvres en acquièrent aussi et parfois fassent des efforts pour les obtenir. Je passe aux réfugiés. En 2015, on a eu lors de la vague de réfugiés venus de Syrie avec la guerre civile. On a eu beaucoup de chômateurs et maintenant, notamment de l'extrême droite, oui, ils sont réfugiés, mais en fait, ils ont des téléphones portables, c'est pas normal, ils viennent manger le pain des Français. Mais en fait, lorsque vous êtes réfugié, lorsque vous quittez un pays à guerre, évidemment que vous gardez votre téléphone portable. Ça va vous permettre de traduire. Alors que vous ne parlez pas la latte, tupé ou sarré, ça va vous permettre de garder le contact avec personnes que vous avez laissées derrière vous, dans ce pays à terre, vous ne voulez jamais avoir des informations. Ça vous permet de chercher un emploi, ça vous permet de faire des démarches. C'est indispensable. En un sens, ceux qui ont le plus besoin d'un smartphone aujourd'hui, c'est les plus pauvres. Ceux qui en ont le moins besoin, en un sens, c'est les plus riches. Il est facile pour quelqu'un qui a un revenu régulier, qui a de l'argent, etc., de se passer de téléphone portable. C'est même une forme de luxe. Pour une personne plus pauvre, une forme de distinction. Pour une personne plus pauvre, c'est beaucoup plus difficile.
C'est un luxe qui n'est pas accessible.
Voilà, c'est un luxe indispensable. C'est un produit de première nécessité.
Et alors, peut-être le dernier point, vous avez commencé à évoquer ça, les personnes qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, considèrent que c'est leur argent, ils en font bien ce qu'ils veulent, ils l'ont gagné. À l'inverse, pour la question des plus pauvres, souvent ils touchent des prestations sociales, et ça, c'est de l'argent qui est distribué par l'État, et donc qui est financé par, je mets beaucoup de guillemets, nos impôts. Oui. Donc là, il y a quelque chose que vous pointez de tout à fait juste, qui est qu'on considère finalement que ce n'est pas leur argent, et que du coup, ils ne peuvent pas s'en servir comme ils le veulent.
Oui, et en fait, on considère du tout les pauvres, tu as les politiques d'aide sociale, on considère une fois de plus les pauvres comme des objets. Ils ne sont pas sujets. C'était le sociologue Jörg Simaltiti, c'est ça, déjà au début du XXe siècle. Que tu as les politiques d'assistance, en fait, c'est l'un des rares proches l'administration où les personnes auprès de qui on intervient ne sont pas les sujets des politiques. L'objectif, en fait, disait-il, c'est pas d'aider les pauvres, c'est soit de les rendre employables, de reconstituer leur disponibilité pour le marché du travail, soit d'éviter qu'ils soient dangereux. C'est les deux justifications qui sont données. C'est rarement pour la pauvreté. Pour réduire la pauvreté, tu as leur intérêt à eux. Ils sont d'ailleurs rarement associés à la définition de ces politiques. Ils ne sont pas associés, en tout cas, à tâches pauvres. Ils sont associés éventuellement à tâches citoyennes parmi beaucoup d'autres. Et on juge souvent l'efficacité d'une politique sociale, d'une politique d'assistance, non pas sur son efficacité à réduire la pauvreté, mais sur son efficacité à mettre les chats au travail ou à éviter qu'ils deviennent des criminels. Et dans ce cas-là, on va souvent juger du fait de ce fait qu'il faut leur donner juste assez pour qu'on réalise cet objectif-là, mais certainement pas plus. Et cet argent, on ne le perçoit pas comme le leur. Ce n'est pas un don, c'est un moyen de pouvoir, c'est un moyen de contrôle. Il est donné pour une utilisation particulière. Et en fait, on ne fait pas confiance aux pauvres du tout pour eux-mêmes améliorer leur situation.
Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Et pour vous donner envie de lire donc ce vraiment très bon livre, Où va l'argent des pauvres, je vais juste conclure avec votre conclusion qui est de dire, pour réduire la pauvreté, en fait, il y a une solution toute simple, c'est de donner de l'argent aux gens. Voilà, réfléchissez-y, c'est à la fois évident et intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci Denis Colombi. Et à une prochaine fois pour une autre émission.
J'espère.
Merci.